Nous avons le plaisir d'accueillir et d'écouter dans son lieu, en quelque sorte, Valérie Dumontet. Valérie Dumontet, pour ceux qui ne la connaissent pas, quand même, il y en a.
Ah oui, je pense qu'il y en a plus qui ne me connaissent pas que qui me connaissent.
Et n'est pas libanaise, elle est lézignanaise, mais c'est aussi une amoureuse du Liban, une bonne connaisseuse du Liban. Elle est par ailleurs donc vice-présidente du conseil départemental, chargée démocratie, jeunesse, action internationale.
Mais bon, la vie associative, ça en fait partie.
Ça en fait partie, oui, oui, oui. J'ajouterais simplement qu'au marque-page, à la Maison du Bonquet, nous lui sommes très reconnaissants parce qu'elle a beaucoup œuvré dans ses places pour favoriser le développement de la Maison du Bonquet et notamment une politique dynamique du livre dans le département de l'Aude. Voilà. Et ça, c'est très précieux parce que ce n'est pas si courant, en fait. Voilà. Donc, entre autres actions, Valérie Dumontet donc, développe les relations internationales entre l'Aude, le département, et particulièrement la Méditerranée, le pourtour méditerranéen. C'est une orientation forte. Et notamment, donc, le Liban et deux villes du Liban dont on a bien parlé, Sgarta, la ville de Jabour, Doué, et puis également Byblos ou Jbeil, mais c'est ce dont tu vas parler maintenant. Quoi. Mmh. Voilà, donc il y a quelques images qui sont projetées au fur et à mesure. Faut pas y accorder plus d'importance que ça. Ce qui importe, c'est ce que va dire Valérie. Merci à toi.
Mais bonsoir à tous. Je suis assez émue d'être là ce soir parce que c'est la première fois que j'ai l'occasion de parler du Liban et de ce qu'on y fait le département et de ce que j'y fais aussi en tant que personne. Hein. Et je suis un peu impressionnée parce que parler de Sgarta sous l'œil de Jabour Doué, c'est pas tout à fait évident. Donc, je vous préviens tout de suite, j'aurai une version absolument subjective du Liban, absolument pas historique, ni scientifique, ni vraie. Ce sera ma version à moi, émotionnelle, très émotionnelle. Et ce sera ma perception, voilà, émaillée de faits assez objectifs quand je parlerai des coopérations concrètes qu'on y mène. Et en fait, je me suis un peu adaptée en écoutant les différents intervenants avant moi cet après-midi. J'ai adapté un peu la façon dont je voulais vous raconter les coopérations entre l'Aude et le Liban. Donc, il y avait un PowerPoint. Comme vous savez, il n'y aura pas de PowerPoint. J'ai juste laissé les quelques images parce que ça me paraissait aussi important qu'il y ait des visuels pour illustrer un peu ce que je vais dire. Et puis, je vous expliquerai les coopérations. Mais du coup, avant de commencer de vous raconter ça, je voulais faire une introduction justement qui, un peu dans le prolongement des témoignages précédents, parle de ce rapport quand Dominique dit amoureuse du Liban. Je pense qu'on peut dire ça. Voilà, c'est une histoire passionnelle en tout cas. Qui est venu de ma première visite au Liban en 2007. 2007, je traverse la Méditerranée avec un groupe de 5 amis, et dont un franco-libanais qui s'appelait Asaf. Donc c'était pas de Sgarta. Asaf, c'est Beyrouth. Et voilà. Donc pendant 10 jours, on a vécu. Il nous a fait découvrir ce pays. Et pour moi, ça a été une sorte de choc parce que j'avais des images sur le Liban, j'avais peut-être des a priori, en tout cas des choses qui venaient sans doute ou de mes études ou de la perception que je pouvais en entendre. Et puis ça a été une rencontre comme si j'avais traversé la Méditerranée pour qu'on me raconte quelque part mon histoire. Pourtant, je suis née à Châteauroux, donc c'est le centre de la France. Je n'ai absolument pas de racines libanaises. J'ai quelques racines anciennes, séfarades, mais très, 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 très lointaines. Mais donc vraiment, Châteauroux, centre de la France, je n'ai pas trop bougé de France. Et là, j'ai découvert un pays. J'ai découvert que parler arabe, ça ne veut pas dire forcément être musulman. J'ai découvert des rites dans des églises chrétiennes avec la langue qui s'appelle, c'est proche de l'araméen. J'ai découvert un mélange entre effectivement des confessions, les chiites, les sunnites, les chrétiens maronites les plus nombreux, mais aussi les orthodoxes, les druzes, et voilà, je crois qu'il y a 62, 63 diverses confessions au Liban. J'ai découvert un pays, moi, française, qui part avec la République, la laïcité, ces grands principes-là. J'ai découvert une démocratie confessionnelle. Et c'est compliqué au départ de comprendre ça quand on est français. C'est-à-dire le président de la République est forcément chrétien maronite, le président de l'Assemblée nationale, il est forcément chiite, et le premier ministre, il est forcément sunnite. Et ça fait partie des accords de la Constitution. Et alors ça peut choquer, et en même temps, je pense que c'est aujourd'hui une des raisons pour lesquelles le Liban reste et arrive encore à résister à peut-être un éclatement que certains voudraient. J'ai découvert un pays ouvert où on parle politique, où on parle dans la même phrase arabe, français et anglais. Voilà. Et puis, venant de bassin de la Méditerranée, de l'Aude, j'ai découvert aussi un territoire qui racontait l'histoire aussi de l'Aude, quoi. Le vin, les Phéniciens, le commerce, ces références-là de civilisation. Voilà, ça, c'était ma première approche du Liban, avec en plus des rencontres humaines extrêmement riches, très fortes, des histoires très fortes, qui étaient encore empreintes en 2007 par la guerre, qui n'était pas encore si loin que ça. Et effectivement, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est que dans un même repas autour de la table, il pouvait y avoir dans une même famille des chrétiens, certains phalangistes et d'autres qui étaient chrétiens modérés. Donc, pendant la guerre, ils n'avaient pas été forcément du même côté, et ils étaient quand même là autour de la table. Et chacun portait cette histoire-là, et en même temps, on partageait le repas, et on sentait bien quelquefois qu'il y avait des pesanteurs, des choses. Et j'ai rencontré ça dans le Liban aussi, cette capacité à parler politique, mais au sens pas politicien comme on l'entend chez nous en France. Voilà, faut oublier tous nos repères, en fait, quand on va dans ce pays-là. Bref, donc ça a été vraiment cette approche émotionnelle et très forte en 2007. Et puis, en 2012, je n'étais pas élue, hein, j'étais au cabinet du président du département. La décision de se lancer dans la coopération décentralisée, c'est des relations entre des autorités locales, donc ça peut être un département et un autre département si ça existe, ou une commune, un département, commune, en tout cas avec des territoires qui ont des élus locaux, quelle que soit la façon dont on s'est élu, on ne va pas rentrer dans les détails. Et c'est des échanges d'expériences, d'expertise sur des thématiques qui peuvent être très diverses en fonction des réalités de chacun des territoires. L'idée étant de trouver des intérêts mutuels à coopérer, c'est-à-dire qu'en 2012, on s'est lancé dans le département de l'Aude, la commande du président du département, André Viola, à moi qui étais collaboratrice au sein de son cabinet, c'est « il faut qu'on développe de l'action internationale, mais attention ». Avec une certaine façon de le faire. Et c'est là où on s'est vraiment positionné sur cette question d'intérêt mutuel, c'est-à-dire rompre avec cette vision du Nord qui doit absolument aider un Sud qui serait inférieur, voilà, qui était un peu la base de la coopération. Voilà, issu de la décolonisation, etc. Aujourd'hui, on est vraiment dans cette recherche de qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'on a des intérêts à échanger et à coopérer. Vous allez voir que dans les coopérations qu'on mène, à chaque fois, c'est relié à des actions ou à des problématiques qu'on rencontre dans l'autre. Voilà, et en 2012, on commence la première coopération, une opportunité comme ça, et moi, je dis, oh là là, le Liban. Et c'était pour moi, ça m'a parlé tout de suite, j'ai dit, bon... J'avais pas cherché ça forcément, et j'ai dit, bah, super, on s'y lance, quoi. Et la première coopération, ça a été avec Zlatar Hayden, voilà. Et ce territoire, et le maire de l'époque s'appelait Toufik Mouawad. C'est le plus jeune maire du Liban, c'était un homme vraiment brillant. Il était trader à la City, et puis un jour, il a eu un cas de conscience, et il s'est dit, mais pour, il faut que je rentre au Liban pour faire autre chose et pour aider mon pays différemment. Donc il avait une démarche assez, assez intéressante de ce point de vue-là. Et sa mère était française, son père est libanais, donc c'était un franco-libanais. Voilà, et on commence cette coopération avec Zlarta. La commande de Toufik, c'était d'accompagner Zlarta à élaborer un projet de, stratégique de développement local. Son constat, c'était, voilà, je suis maire d'une municipalité. Je peux potentiellement changer, le conseil municipal peut potentiellement changer, etc. D'une part. D'autre part, il y a comment on commence, par quoi on commence, quelles priorités on met en place. Il y a tellement à faire dans cette ville. C'est pas un village, c'est quand même une ville. C'est une ville qui a... on ne sait pas très bien parce qu'il n'y a pas de recensement démographique depuis très longtemps au Liban. Mais justement, pour ne pas trop déstabiliser l'équilibre entre les différentes communautés, chiites, sunnites, chrétiens, maronites. Voilà, donc comment est-ce qu'on peut essayer de mettre un peu de cohérence dans ce qu'il y a à faire et puis de voir comment est-ce qu'on peut agir de façon pragmatique et cohérente et avec un peu une vision en disant, bah, voilà, dans 5 ans, on aimerait être là, donc d'ici 5 ans, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. La troisième chose, c'était comment est-ce qu'on peut avoir un plan qui devient une référence commune sur la ville, c'est-à-dire qui peut être reconnu par les habitants, les acteurs économiques, les associations, les ONG, et bien sûr les différentes familles, parce que Zlarta, c'est vraiment important. Ce que Djabour Doyé explique, c'est vraiment le fonctionnement de Zlarta est vraiment comme ça. Ça, il faut vite l'apprendre quand on travaille sur Zlarta. Il faut vite comprendre ces choses-là parce que ça explique beaucoup le fonctionnement de la société de Zlarta. Et si on s'en imprègne pas en tant que personne qui venons coopérer et travailler avec ce territoire-là, alors on passe à côté de beaucoup de choses. Et en même temps, il ne faut pas se laisser enfermer non plus là-dedans parce que moi, je ne suis pas Sgortiot. Je suis française qui va travailler avec les Sgortiot. Donc il faut aussi faire attention de ne pas non plus se laisser happer par... par ça, parce que finalement, notre distance, elle est aussi importante pour eux. Voilà. La troisième raison de faire ce plan stratégique, c'était comment est-ce qu'on peut drainer de façon efficace les financements et les sous qui peuvent arriver sur Zlarta. Et parce que il y a quand même de l'argent qui arrive au Liban, de l'argent des ONG, de l'argent de la diaspora, souvent, qui vient investir, ceux qui ont fait fortune, notamment en Amérique du Sud, beaucoup, sur Zlarta. Des fois, ils veulent investir sur leur ville d'origine au Liban, quoi. Mais l'idée, c'était comment est-ce qu'on peut convaincre la diaspora, si quelqu'un qui veut investir, d'investir plutôt dans tel équipement plutôt que tel autre dans ce qu'il voudrait parce que ce sera plus utile à la population. Voilà, et on a commencé à travailler comme ça, en essayant de faire ce projet de façon un peu participative et ouverte. On a fait des réunions d'acteurs, on a rencontré beaucoup de personnes de tous les secteurs et on a abouti à un plan stratégique et en même temps à former Josiane Kandalaft, qui est une jeune fille qui était au sein de la municipalité à Zlarta, que Toufik avait repéré comme étant en capacité de devenir un agent de développement local, c'est-à-dire quelqu'un qui accompagne ce développement-là. Et ça, c'était important. Ça, c'est aussi une des problématiques, par exemple, de la jeunesse au Liban. C'est Josiane, elle était laborantine de formation, sauf qu'elle n'a pas trouvé de travail dans sa branche, donc il faut bien trouver quelque chose à faire. Il y a beaucoup de cas comme ça au Liban de jeunes qui ont des diplômes, parce qu'ils ils se forment, ils sont très éduqués, ils ont vraiment cette ascension par l'éducation et par la formation et par obtenir des métiers est très importante. Mais s'ils veulent rester au Liban, ben c'est pas toujours facile, quoi, parce que il n'y a pas forcément les métiers qui correspondent à leur formation. Voilà, donc ça c'était la première coopération et dans ces cas-là, donc ça se passe comme ça. On dépose un projet au ministère des Affaires étrangères en France, qui décide de cofinancer le projet. Il y a une participation un peu en numéraire de Zlarta ici et une participation en numéraire du département de l'Aude, plus de la valorisation de temps de travail ou de la prestation intellectuelle des partenaires. Donc C'est une alchimie assez, pas forcément simple, mais en tout cas, c'est la base de ces coopérations. Et puis, en fait, et parallèlement, on a fait aussi une coopération sur Jbel, sur Byblos. Byblos, c'est une ville du bord de la mer. Attends, Dominique, si tu peux, alors juste, attends, montrer les trois petites cartes. Non, pas celle-ci. Ouais. Non, encore. Voilà, merci. Donc, vous voyez, on a les trois territoires sur lesquels on... Donc, il y a l'Aude, vous reconnaissez au milieu. Là, donc, vous voyez, là où c'est entouré en bleu, c'est Zrarta, la ville d'hiver. Eden... En plus, j'ai détruit le truc, voilà, tout va bien. Fallait que ça arrive, hein, c'est pas grave. Voilà, donc Eden est à... alors, tu as bourdé 40 km, moi, j'avais 23 km entre les deux entités, mais bon, peu importe. Mais il y a 8 communes qui séparent les deux entités de Zrarta et de Eden. Et Eden est la ville d'origine, la plus vieille ville, et c'est... je confirme que c'est le fief chrétien maronite et chrétien maronite. Voilà. Donc, on est, il y a pas d'ambiguïté par rapport à ça. C'est une des portes d'entrée. Eden, le village d'origine, est une des portes d'entrée de la vallée de la Kadisha. La Kadisha qui a deux vallées. Donc, Eden est sur la Kanoubine, dans la Kadisha. Et quand on se promène dans ce territoire, on voit tout de suite qu'on est vraiment au cœur de la chrétienté maronite, puisqu'il y a tout un chapelet de monastères voilà, qui émaillent et qui sont une des raisons du classement d'ailleurs de la Kadisha, puisque la Kadisha est classée pour ses paysages, mais aussi parce que c'est la naissance de la chrétienté maronite avec des monastères à flanc de montagne. Voilà. Donc, quand on compare les paysages, notamment des corbières et certaines parties de la vallée de la Kanoubine et autour de Eden, on est très frappé par les similitudes de paysages et de sensations et de ressentis. Et il y a une réserve à Eden qui s'appelle Orsh Eden, qui est la plus grande, la plus riche réserve de biodiversité de tout le Moyen-Orient, pour moi, dans lequel il y a... et ils sont en train d'avoir un label, le label Biosphere Reserve de l'UNESCO. C'est un peu compliqué, mais je pense qu'on va arriver à les accompagner dans cette démarche-là. Donc, on est sur un site qui est en partie classé UNESCO par la Kadisha et une partie qui veut aller être Biosphere Reserve. Donc, avec bien sûr toutes des espèces de cèdres. C'est pas la grande forêt de cèdres, hein, celle voilà, dont on voit partout, mais il y a beaucoup de cèdres, il y a beaucoup d'espèces qu'on retrouve chez nous aussi. Et il y a l'aigle de Bonelli qui est un aigle qui est protégé et qui est aussi protégé dans les corbières. Et on a beaucoup de similitudes comme ça entre ces deux territoires. Donc, l'intérêt de coopérer entre l'Aude et Zrarta et Eden a été assez rapidement focalisé sur cette question du développement de tourisme durable, parce que ce qu'on a fait dans l'Aude il y a 25 ans, de dire on part des ressources, hein, des châteaux et des abbayes, les citadelles du Bertige, etc. La démarche qu'on a initiée il y a 25 ans dans un département de l'Aude assez en déclin économique, et de se dire on part de ce qui existe chez nous, qui est non délocalisable, et on va travailler là-dessus pour en faire une sorte de développement économique. Donc cette démarche qui est encore aujourd'hui une démarche qui est en développement dans l'Aude. Donc, on travaille sur l'histoire. Donc là, c'est le catharisme chez nous, mais à Eden, c'est bien sûr l'histoire de la chrétienté maronite. Mais il y a aussi des figures, hein, sur ce territoire. Il y a un héros, Karam, qui a une histoire aussi assez vraiment forte et intéressante, qui est liée à la France, d'ailleurs, et qui a été... peut-être celui qui a lancé le premier l'idée de la Société des Nations, hein, donc avant même que l'idée existe. Voilà, donc il y a ces correspondances-là. Et puis tout ce qui est aussi la ressource, donc l'histoire, le patrimoine bâti lié à une histoire forte, les paysages et puis ce qui est de la ressource gastronomique et culinaire, ce qui est de la, d'une certaine façon de savoir-vivre, d'accueil, de convivialité. Parce que les Sgortiotes, ils sont effectivement, il y a les familles, effectivement, c'est un monde qui vit vraiment de façon très organisée en interne et qui a la réputation en externe au Liban d'être effectivement de clan, d'avoir. Voilà, donc il y a Sparta a une image très particulière au Liban. Et on s'est dit, ben voilà, il faut travailler aussi là-dessus parce que ça peut être un levier, en tout cas, de développement et de continuer à ça, d'essayer de chercher des sources de développement. Et puis surtout, comment trouver dans un pays comme vous l'avez entendu, comme vous pouvez l'entendre ou le savoir, dans un pays qui quand même sous forte pression géopolitique, géostratégique, etc. Comment trouver des voies de développement qui ne dépendent pas complètement de ce qui se passe à l'extérieur. Donc là, on travaille sur une première strate, on travaille sur le développement d'un tourisme durable à partir de la ressource locale pour les populations du Liban. Les Béroutins, les Tripolitains, les grandes villes, voilà, la diaspora qui revient à Eden, etc. Donc on est dans cette démarche-là. Deuxième strate, c'est la zone géographique. La troisième strate, c'est la zone internationale. Mais on ne peut pas faire dépendre... tout développement économique ne doit pas dépendre que de la zone internationale parce que c'est trop aléatoire. Puis derrière, ce n'est pas que du tourisme, etc. C'est une façon d'aborder ce qui fait l'identité de ce territoire. À la fois son histoire, mais aussi les savoir-faire et aussi ce qui les rattache à une sorte de fierté. Et en même temps, comment est-ce qu'on puisse, dans ces savoir-faire-là, qui sont ancestraux, qui sont traditionnels, pour en faire des éléments de modernité et de développement. Donc ça, c'est le projet qu'on est en train de décrire aujourd'hui, sur lequel on va commencer à travailler pour 3 ans. Là, on est en train de le formaliser. Quand on formalise un projet, c'est-à-dire qu'on se met d'accord sur les axes de développement et ce sur quoi on va travailler. Et nous, notre intérêt pour l'ODE, c'est qu'on échange sur nous ce qu'on a fait sur les outils de médiation culturelle, sur un certain nombre de formations de jeunes de la médiation. Donc on va faire ces échanges-là parce qu'en allant travailler sur un territoire comme Salantin, ça nous permet de nous regarder différemment quand on revient dans l'ODE. Ça nous permet aussi d'adapter un certain nombre de démarches. Moi, par exemple, en France, on est très habitué au financement public, aux subventions, à la présence très forte de la puissance publique dans les actions, y compris par exemple sur la marque Pays Qatar ou sur la démarche Pays Qatar. Et quand on est allé commencer à travailler à Salarta, alors le regard, de nous faire prendre conscience que peut-être il fallait progresser, pas peut-être, parce que du coup c'est ce qu'on est vraiment en train de faire, progressivement laisser aussi les privés travailler sur un modèle économique qui permette d'être indépendant des subventions publiques et qui permette d'être dans une démarche de plus de business et d'économie. Ça, c'est aussi des choses qu'on a rapportées dans cette coopération-là. Voilà. Et Sarata, c'est un territoire particulier parce qu'au-delà de toute cette coopération, un peu donc, que je vous ai racontée sur la thématique et sur comment ça se passe, il y a eu des histoires humaines. Et je pense que ça, c'est une valeur ajoutée qu'on n'a pas forcément sur les autres coopérations. À Jbel, ça se passe très bien. Il y a aussi beaucoup d'amitié, il y a aussi beaucoup de reconnaissance. De toute façon, une coopération sans respect, sans lien humain et sans moment humain, ça ne marche pas. Normalement, ça reste trop... Enfin, il y en a qui le font, ceci dit. Bon. Mais ça reste un peu froid, ça reste professionnel, mais un peu hygiénique de temps en temps. Bon, il faut quand même qu'il y ait du lien humain. Mais Salarta, c'est particulier, d'une part parce qu'il y avait Toufik Mawad, avec qui il y a eu une histoire d'amitié extrêmement forte et d'entraide. On a fait un binôme ensemble qui a été assez hors du commun, je pense, en termes de rencontres, d'alchimie des cerveaux, je pense. Et on s'est beaucoup entraîné sur les conseils, lui, sur sa carrière politique, sur ses aspirations, sur ses doutes en tant qu'élu. Moi, j'étais une sorte de retrouver une sorte de de collaboration de ce conseil-là, et lui parallèlement me donner un conseil. Et la dernière fois qu'on s'est vu, peu de temps avant qu'il se tue dans un accident de voiture, il m'avait convaincu de franchir le cap de politique et de devenir élu. Voilà. Ce que je suis aujourd'hui, parce que je suis vice-présidente du département de l'Aude et je suis en charge notamment de ces actions internationales, et donc ça me permet de continuer cette action maintenant en tant qu'élu. Et j'avoue que c'est aussi très réjouissant de pouvoir l'aborder sous un autre angle et de pouvoir du coup continuer à m'investir sur le territoire de particulièrement de Salarta, puisque c'est une promesse et j'ai un attachement assez profond à ce petit bout de terre. Et en plus, tous ceux qui ont eu l'occasion d'aller dans ce territoire en reviennent de toute façon transformés. Et puis derrière, ça nous apprend aussi des choses sur nous. Et puis, il y a un intérêt d'être, entre guillemets, adopté par les Gortos, c'est que vous pouvez aller n'importe où au Liban. On m'a toujours dit, quoi qu'il t'arrive au Liban, tu dis « je suis de Zlata ». Et personne ne te touchera et t'arrivera à rien. Et ma foi, je dois dire que c'est pas faux du tout. Voilà, donc, bon, voilà, ça c'est le lien avec, entre Zlarta et l'Aude. Dans ce mur de photos, vous voyez, donc là, alors vous voyez plus. Voilà, donc après, si là qui sont intéressés, je pourrais raconter dans les détails le plan stratégique, comment ça s'est passé, les personnes qu'on a mobilisées. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que après la mort de Toufik, il y a eu un changement de municipalité. Donc, Charouane Mawad est devenu maire de Zlarta. Et on a continué, bien sûr, le lien. Et il a repris, en fait, le travail à sa façon. Et puis, Charouane a eu, je pense, l'intelligence de se constituer à côté de la municipalité. À, je sais pas comment on peut l'appeler. Une sorte de comité d'experts ou de bureau d'expertise qui réunit des personnes qui, bénévolement, pour certains, d'autres qui ont été recrutés par la municipalité, des architectes ou des ingénieurs, voilà, et qui, du coup, ont accompagné la municipalité pour aller plus loin par rapport au premier plan stratégique qui avait été fait. Et ils ont bâti leur propre, du coup, un plan stratégique adapté avec vraiment assez... assez précis et avec leur vision à eux. Donc ça, c'était vraiment aussi une étape importante, c'est-à-dire l'appropriation et la continuité. Et il y a eu l'été dernier un grand dîner à Zlarta où Charouane a présenté ce plan stratégique et il y a eu une sorte d'adhésion, en fait, de compréhension et d'adhésion sur l'intérêt d'avoir un plan stratégique pour Zlarta. Et je pense que du coup, c'est une valeur, c'est quelque chose de très important. Et puis du coup, c'est constitué aussi une équipe. Donc il y a plus de techniciens et d'élus et de personnalités sensibilisées au fait qu'il faut travailler dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, moi, j'y suis retournée en octobre, là, cette année. La semaine dernière, j'étais à Beyrouth où j'ai fait un point avec un certain nombre d'entre eux de Zlarta. Et vraiment, là, je sens qu'on a des fondements assez solides pour continuer. Et nous, du coup, dans la candidature UNESCO de l'Aude ou dans un certain nombre de choses, un certain nombre de démarches qu'on fait, ça va nous être utile aussi de nous appuyer sur l'expérience de Zlarta. Voilà, donc j'ai du mal à quitter Zlarta, mais je vais aller à Jbel, à Byblos, où c'est la deuxième coopération qu'on a signée, concomitamment à celle de Zlarta. Byblos, c'est une ville côtière, donc je vais pas me recasser la figure une deuxième fois, donc je ne bouge plus. Et Byblos, donc c'est alors attends, c'est aussi ce qu'on peut mettre. On peut mettre les images de Byblos. Ouais, les photos, le mur. Ça c'est Zlarta. Bah mais voilà, mais celle-ci déjà. Voilà, c'est quelques images que j'ai mis de Zlarta et de Eden, donc des deux villes, en fait, pour vous montrer un peu le... Bon, j'ai fait ça très, très rapidement. Ben, tout à l'heure, en écoutant les conférences, j'ai dit faut que je monte des photos parce que ce sera plus parlant. Vous voyez, si je bouge, vous allez être mort de peur, mais... Non, ici, là, bon, c'est un peu fou peut-être pour vous. beaucoup. Mais là, on voit la colline de Eden, donc elle est en surplomb. Et puis, je crois que j'ai une vue de Zlata. Ici, c'est la ville du bas, donc je n'ai plus du stade de foot. Et on voit les vignes devant, et on voit les barres d'immeubles de la ville de Zlata. Ce sont vraiment deux villes très, très différentes. Hein. Zlata, c'est une ville c'est la ville administrative, d'hiver, et tout le monde investit sur les belles maisons. Enfin, les intérieurs sont toujours plus beaux à Eden qu'à Zlata, mais la ville de Eden est beaucoup plus coquette que la partie de Zlata. Zlata, c'est la partie où on travaille, où c'est l'administration, où c'est administratif, etc. Et Eden, c'est le paradis, hein, c'est tranquille, c'est là où on prend le temps de vivre, etc. Et pendant 4 mois, c'est vraiment deux vies vraiment très différentes. Et vous voyez un peu le patrimoine. Là, c'est la plus vieille église, je pense que c'est la première église maronite, hein, c'est ça, celle-ci, hein, qu'on voit complètement à gauche, là, ici. Voilà, donc là, c'est le symbole à Eden. Et puis ici, c'est une vue de ce qu'on appelle la Midden à Eden. Donc là, c'est une place où on se rassemble le soir après le dîner, qui est très, très vivante, et qui a fait beaucoup d'efforts en plus aujourd'hui pour harmoniser un peu toutes les façades, enfin, restauration patrimoniale des façades, etc., où on se gave de pâtisserie, notamment de chez Douali, ça c'est clair, ça c'est obligatoire. Même après le repas, on va manger des pâtisseries. Donc voilà, ça c'est Eden, vous voyez la vallée de la Kadisha, une petite vue... Bah, la Kadisha, on est là, je pense, j'ai dû prendre ça du monastère de Kosaya, je pense. Oui. Je pense une vie de Kosaya. Et voilà, Kosaya, ça c'est une imprimerie, hein, une première imprimerie avec un livre, un étang, Pnashi, qui est un lieu aussi de détente. Et voilà. Donc voilà, ça c'est quelques vues très très partielles. Très partielle de Zlata et de Eden, des deux villes. Donc c'est maintenant on met à Byblos. Byblos, donc c'est une ville du bord de mer. Donc j'ai mis des photos à la fois du site archéologique, parce que Byblos est connu pour sa citadelle. 17 civilisations qui s'empilent sur un même site. Hein. Donc c'est une des premières structures urbaines au monde. C'est pas la première, parce que je crois qu'il y en a une ailleurs qui est considérée comme la première. Mais sur le site de Byblos, on voit vraiment beaucoup de 17 civilisations. Donc c'est un site très très riche. Donc classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais avec des grosses questions de gestion de site. Hein. C'est le site, il est bien sûr sous gestion de ministère de la Culture du Liban, parce que les municipalités ne sont pas autonomes au Liban, il faut le savoir. Donc quand on part faire de la coopération au Liban, avec notre idée de la décentralisation chez nous, il faut un peu adapter notre façon de faire quand on est au Liban, parce que les municipalités existent, il y a des élections municipales, mais il n'y a absolument pas d'autonomie financière ou d'autonomie de décision. Il y a vraiment une tutelle de l'État sur les collectivités. Donc ça, la décentralisation est en cours, progressivement, ils en ont envie. Mais je pense qu'il y a d'autres questions avant à régler au Liban, que la décentralisation, ce n'est pas forcément la priorité aujourd'hui, même si quand même, ce qui progresse au Liban, mais d'ailleurs comme dans d'autres parties du territoire, j'ai fait Liban-Tunisie la semaine dernière, ce qui progresse quand même, ce que je constate, c'est l'idée qu'il faut soutenir l'action de proximité qui mobilise les populations, les acteurs économiques, les ONG de façon générale et les autorités locales. Et qu'en partant de cette base-là, alors peut-être on peut inverser un certain nombre de problématiques et de choses, voilà. Plutôt que de considérer toujours qu'on est dans des politiques descendantes ou dans des actions descendantes. Voilà. Donc ça progresse beaucoup. Ça progresse beaucoup. Donc Byblos, la première coopération avec Byblos, c'était sur la structure, sur un plan de développement urbain, en fait. Un plan de développement urbain. Alors, il faut que je reprenne juste un peu mes notes. c'était un réseau de transport. Le problème de la problématique de Biblos, c'était de faut connaître le territoire, mais c'est très embouteillé, le centre-ville de Biblos, autour de la citadelle et du site centre historique. Et ensuite Biblos, comme vous voyez, de la citadelle, on prend derrière, c'est une ville qui s'urbanise énormément. Et il y a une très grosse pression urbaine qui enserre la citadelle, en fait. Et donc, ça fait des conflits de déplacements, etc. Donc, l'aide qu'on a apportée à Biblos, c'était la conception d'un plan de déplacement de transport collectif en étudiant 7 lignes de transport collectif des différentes parties du Biblos urbaine nouvelle vers le centre-ville. Et donc là, il y a eu un échange avec le service de transport du département et des techniciens de la ville de Jbeil pour ça. Donc là, c'est pendant un an, il y a eu cet accompagnement-là. Et puis derrière, également, la simulation sur le mode de fonctionnement. Avec des très grosses discussions internes à Jbeil, certains étant partisans de faire une régie municipale, en fait, et d'autres partisans de laisser complètement au privé l'organisation de ce transport. Bon, en fait, je ne sais pas trop finalement, mais je pense qu'ils ont trouvé un mixte entre les deux, en fait. Voilà. Donc ça, c'était la première coopération. Et puis ensuite, on a écrit une seconde coopération sur la question de la gestion, plan de gestion des sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous, ça nous intéressait l'Aude parce que on était effectivement en début de projet d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO des sites des 7 forteresses de montagne par extension du périmètre de la cité de Carcassonne. Et puis, on était dans la situation où la cité de Carcassonne n'avait pas elle-même de plan de gestion et de développement UNESCO. Donc, cette coopération avec Jbeil permet de faire avancer les outils mutuellement, ou de médiation, ou de plan de gestion, ou de médiation entre l'urbanisation et la conservation d'un patrimoine. Voilà. Donc, on était sur cette deuxième coopération-là avec Jbeil, qui une ville. La différence entre Zlarta et Jbeil, c'est que Jbeil est une ville où il y a beaucoup d'ONG ou de coopération, de personnes qui viennent parce que c'est une ville du bord de mer qui est très attractive, voilà, qui alors que Zlarta, qui est un territoire d'intérieur, intéresse bizarrement beaucoup moins les grands bailleurs de fonds et les grandes coopérations. Donc voilà, et puis sur Biblos, on a progressivement aussi, on veut progressivement développer aussi tout ce qui est la médiation numérique et la médiation jeune public. Ça, c'est on est sur cette question-là sur Biblos. Et puis voilà, là on est en cours de rédaction d'un nouveau projet qui lie en fait Biblos, Zlarta et l'Aude. Un projet tripartite qui continue toute la démarche autour du patrimoine mondial, de la conservation du tourisme durable et des échanges autour de la gastronomie culinaire, les ressources locales, et notamment sur Zlarta, le kebé et le darfié, qui sont vraiment deux caractéristiques très... Enfin, le kebé, c'est de la viande, ça parle de base de viande de chèvre. Il y a 7 façons de le préparer. Et le darfié, c'est un fromage aussi très typique de Zlarta. Donc, on est sur des typicités de produits. Et sur Biblos, on n'est pas trop sur l'échange culinaire. On est beaucoup plus sur la médiation jeune public et la promotion touristique, etc. Voilà, donc là, on est en cours de rédaction. On va déposer ce dossier au mois de juin auprès du ministère des Affaires étrangères pour essayer d'avoir des fonds dans le cadre d'un fonds franco-libanais qui vient d'être installé, c'est-à-dire que l'État libanais et l'État français abondent un fonds pour aider les projets de coopération comme celui qu'on peut déposer. Et parallèlement, on recherche en complément de financement d'autres compléments de financement, soit de l'AFD, l'Agence française de développement, qui est un outil financier de l'action internationale de la France à l'international, mais qui jusqu'à présent financent très peu les actions en milieu rural ou en espace un peu diffus. Donc là, on va essayer de faire un peu évoluer ça et d'avoir ces fonds-là. Et puis aussi des fonds européens de ce qu'on appelle la politique de voisinage, qui sont des fonds qui peuvent être utilisés par des territoires adjacents sur la rive sud de la Méditerranée, même s'ils ne sont pas membres de l'Union européenne. Donc on va essayer d'utiliser ces outils-là pour avoir des financements complémentaires sur les actions. Donc l'état d'avancement et de l'implication de l'aide avec le Liban, qui a pris encore un pas supplémentaire. Bon, j'étais à Beyrouth la semaine dernière, ça je vous l'ai dit. Hormis que j'ai fêté mes 50 ans chez Varouj à Beyrouth, qui a été une expérience culinaire magnifique. Donc ça, c'était le grand moment de mon voyage. Je ne suis pas allée que pour ça, mais j'en ai profité parce que j'y étais. Et du coup, les amis sont venus de Zlarta, de partout, et on s'est bien régalé. Mais j'étais surtout pour travailler avec le Bureau technique des villes libanaises, qui est un peu comme l'Association des maires de France, si vous voulez, avec en plus, c'est une antenne de ce qu'on appelle la Confédération des pouvoirs locaux unis, qui est une confédération internationale. En gros, pour caricaturer un peu la chose, c'est l'ONU des collectivités locales. Donc c'est un bureau qui est au Liban et qui représente cette organisation au Liban. Et donc on a un programme de coopération avec le Bureau technique des villes libanaises, donc là à l'échelle du Liban, où moi j'y suis en tant qu'élue, mais aussi avec ma casquette de professionnelle du développement local, parce que c'est mon métier d'origine, c'est professionnel du développement local, pour accompagner les municipalités à mettre en place des bureaux de développement local et à former des agents de développement local pour... alors, le téléphone passe en cellier, mais c'est quoi, ça? et donc, ça va... Pardon? C'est libanais, oui. Et comme la lumière s'est pas encore éteinte, on n'est pas complètement au Liban. Et ça va bien tomber parce que les élections municipales qui sont en train de se dérouler, ben ça va commencer là dans la BK le 8 mai, je crois. Et donc l'idée, c'est d'accompagner ces municipalités pour qu'ils mettent en place ces bureaux de développement local, un peu comme ce qui se fait à Zlarta, je vous expliquais là, le conseil d'experts, pour accompagner les municipalités, les appuyer pour vraiment mettre en place des projets à partir des ressources locales avec les habitants, avec les acteurs économiques locaux et aussi en canalisant les ONG. Parce qu'au Liban, il y a beaucoup d'ONG qui agissent, mais comme pas qu'au Liban. De manière générale, quand on fait de l'action internationale, on est souvent confronté, quand on fait de la coopération entre collectivités, à l'implication des ONG. Et c'est très bien que les ONG soient présentes parce que voilà, ils font un boulot formidable. Mais quelquefois, elles ne prennent pas du tout la tâche de ce qu'on appelle les autorités locales. Et du coup, quelquefois, ce qui manque, c'est la durabilité des actions ou l'appropriation par les autorités locales ou par les populations d'un certain nombre d'actions d'ONG. On ne peut pas rester constamment dans l'humanitaire, dans l'urgence, dans le ponctuel. Il faut parallèlement travailler sur ce qui va faire qu'un territoire va inverser ou pas la tendance dans laquelle il s'enferme ou pas, quoi. Donc voilà, donc on travaille aussi sur ces questions-là. Donc ça, c'est au niveau d'une coopération qu'on a avec donc, le BTVL, ça je vous l'ai dit, le département des Yvelines, le Centre national de la fonction publique territoriale et le département de l'Aude. Donc nous sommes partenaires. Donc là, on a commencé ce programme-là qui va durer 3 ans avec des allers-retours en France, au Liban, de formation et d'accompagnement des élus, d'échange d'expérience et d'expertise. Et de mon retour au Liban, je regarde Christine Cotte qui s'occupe de la cellule Action internationale au département, parce qu'elle va apprendre en même temps que vous ce que je rapporte dans mes valises du Liban. Donc je pense qu'elle va savoir le travail qu'il va y avoir à faire derrière. Mais il y a 2 autres pistes de coopération que j'ai ramenées de ce séjour. C'est développer des actions autour de la jeunesse et des échanges de jeunes pour justement travailler à faire tomber les a priori, les clichés. Parce que moi, à chaque fois, je pars, ça fait 8 fois que je vais au Liban. Donc, ce n'est pas 23 fois comme la première intervenante, ça fait seulement 8 fois. Et je suis stupéfaite à chaque fois des réactions Alors, ceux qui me connaissent maintenant, ça va, ils savent que c'est même plus la peine de me dire, mais c'est dangereux, tu vas pas y aller, parce que de toute façon, j'y vais. Et, mais les images que certains ont de ce pays, beaucoup s'imaginent que c'est un pays islamique avec les femmes voilées, quoi. C'est vraiment curieux. Donc, vraiment, c'est très important, je pense, de faire connaître ce pays, parce qu'il est très atypique sur le bassin méditerranéen. Dans sa structure politique, dans son mode de fonctionnement, dans ce qu'on peut y voir, dans ce qu'on peut y puiser. Voilà. Et puis, c'est aussi historique, les liens entre la France et le Liban. Et du coup, je pense que c'est vrai. Et puis, c'est un endroit, je pense, quand on parle de construction d'un bassin méditerranéen, de paix, de développement, de réconcilier les rives sud et les rives nord dans un espace de développement, d'en faire même, pour ceux qui connaissent un peu la structuration de l'Union européenne, d'en faire une macro-région. C'est-à-dire la reconnaissance d'un espace au sein duquel on peut mener des actions parce qu'il y a des défis communs et des solutions à partager. Si on est vraiment dans cette optique-là, alors le Liban est fondamentalement une place stratégique sur laquelle il faut absolument s'appuyer pour irriguer l'ensemble du bassin méditerranéen de cette perception-là, quoi. La route est longue. La route est longue, hein, sur le bassin méditerranéen, mais je pense qu'à travers des coopérations décentralisées comme celles qu'on est en train de mener, c'est-à-dire si on prend aussi la question dans la proximité, si on fait dialoguer des autorités locales, des élus entre eux, alors aussi il peut y avoir une démarche bottom-up ascendante qui fait que peut-être que ça peut être, c'est comme ça aussi qu'on peut faire changer un certain nombre de choses. En tout cas, moi, j'y crois beaucoup. C'est au Liban, comme quand je vais en Tunisie, ou quand on est aussi dans le sud marocain. Donc, sur des coopérations. Moi, je crois beaucoup à ces démarches-là et je crois beaucoup dans le fait qu'il ne faut rien lâcher sur cette question de la construction d'un bassin méditerranéen, surtout quand on est sur un département, quand on a une histoire aussi non méditerranéenne, parce qu'il y a vraiment... Ça fait sens de travailler là-dessus et d'essayer d'inverser vraiment ce qui est en train de se passer et les drames qu'on est en train de constater, en fait, sur ce bassin méditerranéen. Donc voilà, et bon, c'est donc au départ, les liens entre l'eau et le Liban, ça a été une opportunité d'avoir une coopération décentralisée parce qu'il y avait une démarche un peu... je vous ai oublié de vous dire les deux autres projets. Donc la jeunesse, ça, voilà, et le rugby à 13, hein, voilà. Pour ceux qui me connaissent, je suis 13iste, hein. Je suis passionnée de rugby à 13 et je suis impliquée dans le 13. Et j'ai rencontré pour la première fois en 8 fois, je n'avais jamais eu l'occasion d'y aller, j'ai rencontré donc la fédération de rugby à 13 du Liban. Alors, sachez que le rugby à 13 est très joué dans l'hémisphère sud, hein, et qu'en fait, ce sont les Libanais australiens qui ont monté cette ligue au Liban. Et donc on est en train de cogiter un projet de coopération qui pourrait lier l'Académie des Dragons catalans et le pôle espoir de Paul Sabatier à Carcassonne autour de cette question d'échange entre les coachs, les jeunes, etc. Et moi, c'est pas tellement le 13, hein, mais bon, j'ai pris le prisme du 13 parce que je suis 13iste, mais ce qui m'intéresse en prenant le sport comme clé d'entrée, c'est que quand on prend le sport, le prisme du sport, on touche des populations qui jamais, 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 jamais ne seraient venues pour un autre prétexte traverser la Méditerranée. Patrimonial, l'échange de jeunes, la culture, le partage des cultures, etc. Ça intéresse beaucoup de jeunes, mais dans le milieu sportif, on va toucher là une population qui ne serait jamais venue. Et là, je trouve ça assez intéressant, parce que en les emmenant à travers leur sport, et une fois qu'ils seront là-bas au Liban, là, on va travailler sur faire tomber les a priori, faire tomber les barrières, leur faire découvrir autre chose et l'ouverture d'esprit. Et c'est à travers ça qu'on va provoquer, ça j'en suis persuadée, qu'on va provoquer à la fois des émotions et des prises de conscience qui donneront ce que ça donnera. Mais en tout cas, on aura semé une petite graine, quoi. Ce sera pour le Liban, pour n'importe quel autre déplacement à l'étranger, quel qu'il soit. J'étais en Tunisie avec un groupe de 6 jeunes au doigt la semaine dernière. Après le Liban, je les ai rejoints dans le sud tunisien. Je peux vous dire qu'il y a des paroles de jeunes après ces séjours qui sont extrêmement, qui donnent du courage, quoi, parce qu'on se dit, on ne fait pas ça pour rien, quoi. Voilà. Quand un jeune qui, qui est né en France, mais qui d'origine marocaine, enfin dont les parents sont d'origine marocaine, qui dit la rencontre du forum de jeunesse en Méditerranée en Tunisie, dit: je viens de comprendre mon identité, non, mes identités. Et il dit, ce qui m'a fait drôle, c'est que dans ce forum jeunesse en Méditerranée, on me considérait comme français. Or, moi, en France, je ne me suis jamais définie par rapport à ma nationalité, mais par rapport au pays d'origine de mes parents. Et il est revenu de ce séjour en Tunisie en étant riche de ça. Ça l'a percuté. Voilà. Et ben moi, je me dis, ben rien que pour ça, ça vaut le coup de faire de ces échanges-là. Donc, si je peux, à travers le sport, provoquer aussi ce petit choc et qui va du coup percuter un peu certaines certitudes, ben voilà, c'est une petite pierre, hein, c'est une petite goutte d'eau dans la Méditerranée, mais après tout, hein, c'est une petite goutte d'eau qui peut être utile. Voilà, c'est ça aussi le sens de l'action qu'on mène le département de l'Aude, à la fois animé de convictions par rapport au bassin méditerranéen et sur le fait aussi que la coopération entre élus est très importante, qu'on doit absolument constituer une mondialisation, une autre façon de faire de la mondialisation qui respecte à la fois les identités, mais qui aussi donne une autre façon d'agir ensemble à l'échelle internationale. Voilà, donc c'est un peu ça, tout ce qui motive l'implication de l'autre dans la coopération internationale, avec, pour la coopération avec le Liban, une touche de passion et d'émotion qui n'existe pas dans d'autres coopérations. Mais ça m'est très personnel. C'est en tout cas comme ça que moi je le prends en tant qu'élue maintenant. Et puis maintenant, comme je suis vice-présidente, ben voilà, je peux un peu plus décider directement de le faire. Mais voilà, donc en tout cas, tout ce que j'ai entendu cet après-midi des différentes discussions sur le Liban, ça m'a parlé beaucoup, parce que c'est vraiment ça aussi que j'ai ressenti. Et moi, je suis bien contente aujourd'hui de parler au sein de cette manifestation qui est le Banquet du Livre, que je suis depuis quelques années maintenant. Non pas en tant que passionnée de littérature, même si je lis, mais en tant qu'habitante d'un territoire et maintenant élue, persuadée qu'à travers la littérature, à travers cet espace d'éducation populaire qu'offre le Banquet du Livre, de s'enrichir, d'accéder à des savoirs et de le faire simplement, ben, ça participe aussi à l'émancipation de la pensée, et je pense que ça rend libre, et donc il faut absolument rien lâcher non plus par rapport à ça. Voilà.
Merci beaucoup, Valérie Dumontet.